Lizzie présente Gattaca de Franck Tillier, lu par Jérémy Covillo. À Esteban et Tristan, qui, comme 7 milliards d'autres petites fourmis, participent modestement à ce grand chantier qu'est l'évolution. Les organismes vivants ont existé sur Terre, sans jamais savoir pourquoi, depuis plus de 3 milliards d'années, avant que la vérité ne saute finalement à l'esprit de l'un d'eux. Richard Dawkins. La science ne consiste pas seulement à savoir ce qu'on doit ou peut faire, mais aussi à savoir ce qu'on pourrait faire, quand bien même on ne doit pas le faire. Le nom de la rose, Umberto Eco. Note à l'audiolecteur. On me demande souvent d'où viennent les idées. Surgissent-elles au détour d'un fait divers, à la vue d'un paysage, au coin d'une rue ou d'une page de magazine? À vrai dire, je ne le sais pas précisément. Il n'y a ni secret ni méthode. Je crois plus à la notion de déclic et de hasard, comme si l'on voyait 1000 feuilles d'arbres prises dans une tempête et que l'on suivit soudain des yeux celle qui viendra se plaquer sur notre joue. Voilà plus de 2 ans, à la recherche de l'idée du second volet du diptyque consacré à la violence, j'écoutais, disons par des circonstances provoquées, la conférence d'un scientifique sur l'évolution. Au beau milieu du discours, ce professeur a expliqué la chose suivante. Charles Darwin avait, un jour, reçu d'un correspondant une orchidée originaire de Madagascar, Angricum sesquipédale, communément appelée l'étoile de Madagascar. Cette fleur comporte un éperon de 25 à 30 cm de long, dont la base est gorgée de nectar. Aucun des papillons que Darwin connaissait n'était en mesure d'atteindre une telle profondeur. Comment pouvait donc se réaliser la pollinisation des fleurs sans laquelle cette orchidée aurait disparu ? Il estima qu'il devait exister à Madagascar un papillon doté d'une trompe suffisamment longue pour aspirer le nectar au fond de l'éperon. On découvrit ce papillon 41 ans plus tard. On lui donna pour nom symbolique Xanthopan morgani praedicta, en hommage à la prédiction de Darwin. Sa trompe mesurait entre 25 et 30 cm de long. Je trouvais cette découverte tellement extraordinaire que je me suis dit qu'il y avait sans aucun doute matière à une histoire. Je me suis alors intéressé à la biologie, l'évolution, l'ADN, et à réfléchir à la trame que vous allez découvrir. L'alchimie des mots a fait le reste. Ce roman met de nouveau en scène Lucien Bell et Franck Charcot. À la fin du syndrome E, leur aventure n'était pas terminée, puisqu'il se passait un événement inattendu dans les toutes dernières pages. Si les personnages sont évidemment dans une continuité psychologique par rapport au livre précédent, je tiens à préciser que ce récit est complètement indépendant et peut donc être appréhendé comme tel par les nouveaux lecteurs. Prologue. Août 2009. Il n'aurait pas dû faire beau ce jour-là. Nulle part sur cette terre, des gens n'auraient dû avoir le droit de rire, de courir sur la plage ou de s'échanger des cadeaux. Quelque chose ou quelqu'un aurait dû les en empêcher. Non, ils n'avaient pas le droit au bonheur ni à l'insouciance. Parce qu'ailleurs, dans une pièce réfrigérée, au bout d'infâme couloir éclairé par des néons, une petite fille avait froid. Un froid qui ne la quitterait plus. Jamais. D'après les autorités, le corps méconnaissable d'une fillette, âge estimé entre 7 et 10 ans, avait été recueilli à proximité d'une route départementale, entre Niort et Poitiers. Lucien Bell ignorait encore précisément les circonstances de la découverte, mais dès que la nouvelle était remontée à la brigade criminelle lilloise, elle avait foncé. Plus de 500 kilomètres avalés à l'adrénaline, malgré la fatigue, la souffrance intérieure, la peur du pire qui chaque seconde l'habitait, avec toujours cette seule phrase au bout des lèvres. Faites que ce ne soit pas l'une de mes filles. Pitié, faites que ce ne soit pas l'une de mes filles. Elle qui ne priait jamais, qui avait oublié l'odeur d'un cierge, suppliait. Elle osait croire qu'il pouvait s'agir d'un autre enfant. Une fillette disparue sans que les fichiers de la police aient donné l'alerte. Peut-être une gamine enlevée la veille ou dans la journée. D'autres parents seraient alors malheureux. Mais pas elle. Non, non. Pas elle. Lucie s'en convainquit encore une fois. Il s'agissait d'une autre enfant. La distance relativement modérée entre le lieu de l'enlèvement de Clara et Juliette Hennebelle, les Sables d'Olonne, et celui où les promeneurs avaient retrouvé le corps ne pouvait être que le fruit du hasard. De même que la courte période, 5 jours, entre sa disparition et l'instant précis où Lucie posait le pied sur le parking de l'Institut médico-légal de Poitiers. Une autre enfant. Alors pourquoi Lucie était-elle là, seule, si loin de chez elle? Pourquoi un violent acide coulait-il au fond de sa gorge et lui collait-il l'envie de vomir? Même en cette fin de journée, le bitume du parking demeurait brûlant. Entre les quelques voitures de police et du personnel, des odeurs âcres de goudron fondu et de pneumatiques empestaient l'air. Cette période estivale de l'année 2009 avait été un enfer à tout point de vue. Personnel, privé. Dire que le pire restait à venir, avec ce mot abominable qui battait dans sa tête. Méconnaissable. La gamine est allée là-dedans, n'est pas l'une de mes filles. Lucie regarda son téléphone portable, encore, appela la messagerie alors que l'écran à cristaux liquides n'indiquait aucune petite enveloppe. Peut-être y avait-il eu un problème de réseau en route, peut-être lui avait-on laissé un message urgent. On avait retrouvé Clara et Juliette, elles allaient bien, et seraient bientôt à la maison, au milieu de leurs jouets. Un claquement de portière derrière une camionnette la ramena à la réalité. Pas de message. Elle rangea son cellulaire et pénétra dans le bâtiment. Lucie connaissait par cœur les IML. Toujours la même structure. L'accueil droit devant soi, les laboratoires d'analyse à l'étage, et au rez-de-chaussée, la morgue et les salles d'autopsie, symboliquement sous le niveau du sol. Les morts n'avaient plus droit à la lumière. Les traits creusés, les yeux en berne, le lieutenant de police collecta des renseignements auprès de la secrétaire. Sa voix était hésitante, mal assurée. Des cordes vocales éraillées par trop de pleurs, de cris, de nuits sans sommeil. D'après le registre, le sujet, un autre mot atroce qui lui comprima la poitrine, était arrivé à 18h32. Sans doute le médecin légiste en finissait-il avec les examens de surface. Sûrement s'apprêtait-il, en ce moment même, à lire l'histoire des dernières minutes du sujet, au cœur même de sa chair. Une autre fillette, pas Clara ni Juliette. Lucie avait du mal à tenir debout. Ses jambes flageolaient et lui ordonnaient de faire demi-tour. Elle remonta les couloirs une main sur le mur, marchant au ralenti, couverte d'obscurité, tandis que dehors, quelque part, au beau milieu de l'été, des gens chantaient et dansaient. C'était ce contraste le plus difficile à encaisser. Partout, la vie continuait, alors qu'ici... 30 secondes plus tard, elle se tenait devant une porte battante à vitre ovale. Cet endroit puait la mort, sans artifice pour l'adoucir. Lucie avait déjà emmené des parents, des frères, des sœurs dans ces tunnels d'encre pour constater. La plupart d'entre eux s'effondraient avant même de voir le corps. Mettre les pieds dans cet endroit avait quelque chose de terriblement inhumain, de contre-nature. Dans son champ de vision, de l'autre côté de la vitre, un visage masqué, un regard concentré, dirigé vers une table en acier inoxydable que Lucie ne voyait pas. Elle avait vécu cette scène tant et tant de fois. Et tant de fois, elle n'y avait vu que la matérialisation d'une nouvelle affaire, un dossier qu'elle espérait excitant, hors norme même. Elle avait été comme ce maudit légiste, qui traitait un cas parmi beaucoup d'autres, et qui, en rentrant chez lui ce soir, allumerait sa télé en buvant un coup. Mais aujourd'hui, tout était tellement différent. Elle était le flic et la victime, le chasseur et la proie. Et juste une mère, face au corps d'un enfant mort. Pas l'une de mes filles. Une gamine anonyme. D'autres parents souffriront bientôt à ma place. Puisant dans ses mots un regain de courage, Lucie plaqua ses deux mains sur la porte, inspira aussi fort qu'elle le put, et poussa. L'homme d'une 50aine d'années s'est égaré au fond du parking de l'Institut médico-légal, derrière une camionnette livrant du matériel médical. Un endroit stratégique qui lui permettait d'observer les allées et venues dans le bâtiment, sans attirer l'attention. Les yeux cachés derrière des lunettes de soleil rafistolées, la barbe épaisse de plusieurs jours, il donnait l'air d'un type qui s'apprête à faire un mauvais coup. Son front perlait. Cette chaleur, cette putain de chaleur écrasante, grasse. Il souleva ses lunettes et épongea ses paupières avec un mouchoir en tissu, tout en analysant la situation. Fallait-il entrer et prendre davantage de renseignements sur le corps de l'enfant? Ou alors, devait-il attendre la sortie des officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'autopsie et les questionner à ce moment-là ?